de dilemme tout de suite. Il va falloir trouver 10 bonnes réponses en moins d'une minute. En jeu, 1100 euros. On vous souhaite bonne chance, Isabelle.
Vous êtes prête? Je suis prête.
Attention, top chrono. Quelle Marie a été la première femme à recevoir un prix Nobel en 1903?
Passe.
Quel acteur mythique a joué le rôle de l'inspecteur Harry?
Passe.
Pour Sergio Leone, il y a le bon, la brute et le...
truand.
Vrai ou faux, Sean Connery a joué 7 fois 007.
Vrai.
En 1984, comment est le temple d'Indiana Jones?
Maudit.
Quelle émission présente Anne-Elisabeth Lemoine?
Je la regarde tous les soirs, c'est à vous.
Vrai ou faux, Didier Barbelivien a composé pour Céline Dion?
Vrai.
Bernard Hinault était surnommé le blaireau ou le renard?
Le blaireau.
Haroun Tazieff était vulcanologue ou astrophysicien?
Vulcanologue.
Vrai ou faux, le Mont Saint-Michel n'a jamais été une île en 2024?
Faux.
7 bonnes réponses. C'est Marie Curie qui a été la première femme à recevoir le prix Nobel. Clint Eastwood a joué le rôle
de l'inspecteur Harry. C'est l'acteur préféré de mon père, mais c'est pas sorti.
Et le Mont Saint-Michel n'a pas été une île en 2024. Quelques jours, ça arrive en moyenne 3 fois par an.
Ouais, c'est arrivé d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Donc, c'est arrivé hier.
Le Mont Saint-Michel a été une île en 2024.
Elle était pas facile, celle-là.
Allez, Isabelle, on vous embrasse.
Ouais, c'est super gentil, merci beaucoup.
Bonjour Romain.
Bonjour. Salut les copains.
Bonjour Romain. Que faisiez-vous à 15 ans?
J'écoutais Europe 1.
À 15 ans, je sortais pas mal avec mes amis à la campagne pour le coup. Ouais. Pas mal de sport, pas mal de soirées, pas mal de la fête quoi un petit peu et puis passer du bon temps.
Alors aujourd'hui, il a 36 ans, Romain. Vous faites quoi aujourd'hui?
C'est mon anniversaire.
Vous l'avez publié déjà, le 36 ans?
Non, le 36 ans, il va arriver.
Patienter.
On va vous offrir le 40, je suis désolé. mais sinon, le 37 ans est déjà là. Il peut se préparer.
Voilà. C'est la 37e année, ma foi.
Romain, qu'est-ce que vous faites à 36 ans?
Je suis kinésithérapeute du sport.
Ah, comme Molière à l'époque.
Vous travaillez avec des sportifs de haut niveau?
J'essaye, en tout cas ils essayent. Il n'y a pas que les sportifs de haut niveau, mais en tout cas je travaille avec eux. Par le passé, j'ai travaillé dans des clubs professionnels. Puis aujourd'hui, je travaille en libéral à Bordeaux où j'en accompagne certains pour les Jeux Olympiques, à qui d'ailleurs j'adresse mes encouragements les plus sincères.
Vous faites bien. Alors, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous n'avez pas perdu de temps à 36 ans. Oui. On va jouer avec le chiffre du jour. Europe 1.
1 180 000 centimes. Non, je vais finir dans les chiffres, c'est pas la première fois.
Le chiffre du jour. Alors Romain, il y a 600 euros dans le jackpot si vous trouvez 4 bonnes réponses. Je vais vous parler du chiffre 30. À quoi correspond-il? Est-ce que c'est le nombre de livres Birth des Books qui sont disponibles? Est-ce que c'est le nombre de minutes que Frédéric Taddeï consacre à la lecture avant de dormir? Ou est-ce que c'est l'âge auquel Frédéric Taddeï a lu Les Trois Mousquetaires? 30.
Alors, qu'en pensez-vous?
C'est une question difficile et intéressante à la fois.
Alors, ouais. Franchement, si vous êtes logique, vous devriez trouver la réponse assez facilement.
C'est bien parce que ça lui met pas la pression.
On va pas les jouer à nous non plus parce qu'on est là pour aider. Moi, je pense que les 30 minutes de l'aide,
c'est les copains pour avoir de l'aide avec les copains.
Elle n'a absolument aucune logique.
Je pense
elle-même.
Que les 30 minutes de lecture, non,
c'est pas assez.
Je pense que donc la première, c'était le...
Le nombre de livres Birth des Books.
Je crois qu'on a dit tout à l'heure le chiffre, et c'était pas 30.
C'était
27, il me semble.
15.
Il nous reste les Trois Mousquetaires.
Je pense que c'est les Trois Mousquetaires.
Alexandre Dumas.
Et ça doit être dans le livre 30, je pense.
Alors, est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce que vous la bloquez déjà, Romain?
Je la bloque, c'est ce que j'aurais à dire, instinctivement.
Ah bon, alors voilà. Donc, est-ce que c'est une bonne réponse? Vous avez lu les Trois Mousquetaires à 30 ans?
Oui, parce qu'avant
avant ça, je voulais pas du tout lire les classiques. Je trouvais que c'était pour les enfants. Mmh. Et puis quand j'ai lu Les Trois Mousquetaires, je me suis rendu compte que j'avais été stupide et je me suis mis à lire tous les classiques. Remarquez, c'est bien de les lire un peu tard parce que sinon tous les romans que j'avais lus avant m'auraient peut-être paru un peu fades.
Ouais. Allez, on va jouer au bluff Europe 1 avec Romain. Vous êtes là, Romain ?
Je suis là, Sophie.
Le principe est simple. Je vais vous poser une question. Chaque copain va vous proposer une réponse en essayant d'être le plus convaincant possible. À vous de trouver la bonne réponse. Allez, voici le bluff.
Tu bluffes, Martini.
Europe 1.
Il bluffe.
Le bluff.
Pas sûr.
On nous a dit, Frédéric, que vous aimiez voyager et nous faire voyager. Alors, vous le faites dans le domaine de l'art, dans le domaine de la culture. Nous avons choisi des voyages géographiques. Nous avons choisi une destination que vous aimez beaucoup, je crois, c'est la Namibie.
Bah, je dois dire que c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait. J'en ai fait beaucoup, mais la Namibie, c'est extraordinaire. C'est vraiment un des plus beaux pays que
Pourquoi
j'ai vu.
Pourquoi ? Parce que ça réunit plusieurs
types d'atmosphères. Parce que c'est très différent. J'ai eu la chance de le faire en avion, donc avec un avion privé, parce que c'est des distances considérables. Avez assez peu de stations d'essence. Ouais. Enfin, on peut le faire. Un de mes amis vient de le faire en voiture, donc je sais qu'on peut le faire aussi. Ouais. Mais en l'occurrence, je l'avais fait avec un petit avion et vous vous posez dans la savane. Et il y a des hôtels absolument extraordinaires. Ouais. Vous avez des animaux magnifiques. Vraiment, j'adore l'Afrique et la Namibie, je dois dire, c'est the place to be, comme vous disiez.
Alors, en Namibie se trouve la ville de Kolmanskop, qui ne vous dit peut-être rien. Pourtant, c'est un lieu qui attire chaque année de plus en plus de touristes. Pour quelles raisons ? Vous connaissez la Namibie, vous, Romain ?
Oui, un petit peu. Mon beau-frère et ma belle-sœur, ils sont allés en voyage. Ils ont trouvé effectivement un voyage magnifique et les paysages à couper le souffle.
Alors, pourquoi Kolmanskop est de plus en plus visité ? Et Nora, quelle est votre proposition ?
Alors, c'est un village fantôme envahi par le sable. Ce village a été construit assez rapidement, un peu n'importe comment, au XXe siècle, parce qu'on avait découvert une mine de diamants à proximité. Bon, évidemment, l'exploitation intensive de cette mine a conduit à l'abandon de ce petit village au niveau des années 50, au début des années 50, je crois. Et le village a été laissé tel quel, et depuis, s'est fait donc progressivement envahir par le sable. Ouais. Et tenez-vous bien, depuis 2002, il y a même des agences touristiques qui viennent faire visiter ce petit village fantôme, voilà, envahi très joliment par le sable.
Clément.
Alors, pas du tout. Sachez que cette ville-là n'est pas une ville. En fait, c'est une réserve naturelle où on trouve les derniers rhinocéros noirs de la planète. Il en reste 39 et vous ne pouvez pas en trouver ailleurs. C'est le seul endroit sur Terre et il faut les préserver.
C'est faux. Très bien.
C'est complètement faux également, puisque la vérité, c'est que cette ville se trouve à proximité d'une plage de sable rose que vous avez dû voir sur les photos de votre beau-frère et de votre belle-sœur. Il y a une légende locale qui raconte que Dieu était de très bonne humeur lorsqu'il a créé la plage, et la vérité, c'est juste que ça vient des mollusques. Quand ces mollusques perdent leur coquille, eh bien c'est broyé, ça se décompose, ça se mélange au sable, et ça donne une teinte rose caractéristique. Jusqu'à 8000 touristes par jour y vont, ce qui devient là actuellement un défi pour les autorités locales qui veulent éviter les dégradations sur le site.
T'es évidemment un bon mythomane, ouais, c'est pas mal.
Très très bien.
Genre un peu journalistique.
Alors,
tu vois,
pour Enora, c'est une ville fantôme envahie par le sable. Pour Clément, c'est l'un des rares endroits où l'on peut apercevoir des rhinocéros noirs. Et pour Fabien, elle se trouve à proximité d'une plage de sable rose. Qu'est-ce que vous dites ?
Petite mention pour Fabien qui a déployé un trésor d'inventivité, mais je vais garder la proposition d'Enora.
Ah, je vous remercie.
C'est une bonne réponse.
Et bien sûr, la vérité sort de la bouche des Bretonnes.
Ça donne lieu à des photos un peu surréalistes. Ouais. Oh, wow. Et donc, c'est pour ça que cette ville est très visitée.
Regardez votre radio, la photo est incroyable.
Parce que les touristes aiment photographier ce village progressivement envahi par le sable et qui devrait disparaître d'ailleurs totalement recouvert par le sable. Vous ne connaissiez pas, vous, Frédéric ?
Pas du tout. En Namibie, j'ai plutôt évité les villes.
Oui, c'est bien sûr. Vous avez deux bonnes réponses. Ouais. Alors, on parlait de Louis de Funès. Eh bien, ce n'est qu'à 50 ans qu'il devient une star du box-office avec Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantomas, Le Corneau. Trois films qu'il a tournés en 4 mois qui totalisent 24 millions d'entrées.
Oh, wow. Oui, il a eu de la chance.
Incroyable. Et Serge Gainsbourg, il sort ce tube au même âge après les échecs commerciaux de ses précédents albums.
À 40 ans, vous voulez dire ?
50.
À 50 ans.
Oui, parce qu'on ne le sait pas, mais Serge Gainsbourg, en fait, n'a quasiment jamais vendu de disques sur son nom. Il vendait des disques où chantait Jane Birkin, où chantait France Gall. Mais les disques de Serge Gainsbourg, ceux que tout le monde adore aujourd'hui, L'homme à la tête de chou, Mélodie Nelson, Le poissonneur des lilas, c'était des bides. La première fois qu'il a fait des succès sur son nom, effectivement, ça arrive assez tardivement. Et il y a notamment Six, Sex and Son. Et l'autre, c'est L'Ami Caouette. Deux chansons pas terribles. Et en fait, je pense que s'il est devenu après l'alcoolo de service, Gainsbourg, qu'on voyait à la télé tout le temps, c'est parce qu'en fait, il était furieux qu'on l'aime pour ce qu'il faisait de moins bien.
De moins bon, ouais. Alors, vous savez combien de personnalités vous avez rassemblées au total dans toute cette collection ?
Il y en a qui reviennent régulièrement. Gainsbourg, Bardot, Gérald de Gaulle, Jules César, ils reviennent assez souvent dans plusieurs livres. Mais sinon, vous comptez, il y en a entre 400 et 500 par livre. Il va y avoir 40 livres, ça fait 20 000.
Et le Jules César ? Les tisages qui vous ont marqué dans
Jules
ville
César, à 50 ans, il franchit le Rubicon.
Et à 60, il invente la salade César.
Je pense pas qu'il t'a osé la faire.
On va jouer au mot mystère avec Romain, un mot bien sûr qui a un rapport avec notre ami Frédéric Taddeï. Alors ça, c'est un petit bruit qui illustre le mot qu'il faut que vous trouviez. Je vais vous donner trois citations. C'est le même mot dans chaque citation. À vous de le trouver. Voici la première citation. Elle est de Victor Hugo. Là est la muraille immense de la tombe. Là est la muraille immense de la tombe. Avez-vous une idée?
Je suis sûr que Frédéric, il va trouver
si vous en avez une.
Salade César.
Romain, vous avez une proposition ?
La peur, non, je ne sais pas.
La peur et la muraille immense de la tombe. La prudence.
La famille.
La famille.
C'est vous qui avez lancé avec tombe, moi famille, c'est joyeux.
Deuxième citation de Céline, Louis-Ferdinand Céline, dans Voyage au bout de là.
La grande Céline.
La vie... La vie, c'est ça, un bout de lumière qui finit dans la...
Là, maintenant, je sais.
Frédéric a une idée.
C'est bon.
Et vous, Romain ?
Je commence à voir le début, un petit peu.
Alors, vous diriez quoi ?
Je dirais la nuit.
Ah, pas mal. La nuit et la muraille immense de la tombe. La vie, c'est ça, un bout de lumière qui finit dans la nuit. Et voici la troisième. Tirez la... Sur les étoiles, là, nous appartient.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous suivez Frédéric Taddeï ?
Je reste sur la nuit. Sur la nuit.
Donc parfait. Je bloque cette réponse et bravo, c'est une bonne réponse.
Bravo.
La
nuit
sur les étoiles. Alors pourquoi la nuit ? Parce qu'on vous imagine plutôt Frédéric comme un oiseau de nuit plutôt que comme un lève-tôt, même si vous êtes très tôt sur Europe 1 samedi et le dimanche.
Croyez-moi, parfois il m'arrive de me lever à 7h, je reviens pas, ça m'était pas arrivé depuis l'école.
Parce que vous êtes plutôt un oiseau de nuit.
Oui, moi je suis plutôt... j'aime beaucoup la nuit et puis j'aime bien surtout veiller très tard.
Ouais.
Pas trop non plus, j'aime pas les nuits blanches parce que sinon vous êtes encore hier et les autres sont déjà demain.
Alors qu'est-ce que vous faites quand vous veillez très tard ?
Mais rien, je peux rester chez moi, je lis, je regarde un film.
Vous profitez d'hier finalement, vous faites l'inverse.
Oui, c'est ça, je fais durer. Et quand j'étais petit, je mettais mon réveil à 3h du matin et puis je m'obligeais à jouer. Oui, je jouais avec mes petits soldats. Ça, je vous parle de ça.
Mais pourquoi ?
Parce que j'avais lu que les commandos. Les Shindits, pendant la Seconde Guerre mondiale, le général Wingate les réveillait à n'importe quelle heure et ils devaient être capables de se battre. Alors bon, moi, j'avais pas de raison de me battre, donc j'avais estimé que moi, l'équivalent, c'était jouer.
Drôle.
C'est dangereux la lecture,
Je jouais pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et hop, je me retournais me coucher. Les résultats aujourd'hui, vous pouvez me réveiller à n'importe quelle heure, je suis toujours de bonne humeur.
Vas-y donc.
Sophie et les copains.
Sophie Davant sur Europe 1.
On va poser une question dans l'univers de Frédéric Taddeï.
Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre Albert Cohen ou Balzac.
Lire de Pierre Perret. Frédéric est un auteur de livres, mais c'est un grand lecteur aussi. On va parler de lecture et de littérature. Pour cette question, dans quelques semaines, du 12 au 14 avril, se tiendra le Festival du Livre de Paris, comme c'était le cas en 2022 et 2023. Il prendra place au Palais éphémère de Paris, qui fait face à la Tour Eiffel. Et comme chaque année, une région du monde sera mise à l'honneur. Et cette année, c'est une région francophone. Laquelle ?
Aïe.
Romain, est-ce que c'est la Suisse, le Québec ou la Belgique ?
Waouh. Francophone. C'est une bonne question. Qu'en pensent les copains?
Alors là, les copains sont embêtés parce que franchement, les trois, je pensais au moins qu'il y aurait une blague sur les trois. Bah, non, mais les trois sont francophones.
Alors, le seul truc que je me dis, c'est que le Québec, ça, je me souviens d'un vague truc. Ça en avait parlé il y a quelques années. Je me dis peut-être qu'avec le Covid, ça n'a pas eu lieu et qu'ils le mettent maintenant. J'ai ce vieux, cette vieille réminiscence, mais elle vaut
pourquoi
ce qu'elle
vous
vaut.
Vous embêtez, il y a Frédéric Taddeï. Franchement,
est-ce qu'il connaît? C'est vrai, vous écriviez des lettres de fans à Frédéric Taddeï.
Non, j'ai fait une déclaration à mes débuts en télévision à Frédéric Taddeï, très professionnelle, hein,
qui est à l'antenne,
qui est une de mes idoles que je suis depuis très longtemps, Radio Nova, etc. Il m'a répondu.
Alors, qu'est-ce que
une
vous
lettre
aimez,
manuscrite.
Qu'est-ce que vous aimez chez lui?
Mais c'est un génie. Je sais pas ce que vous avez dit, mais pardon, non, mais il est érudit, il s'exprime avec beaucoup de soin. J'ai appris des choses incroyables en écoutant ses émissions. Moi, il me fascine, je l'admire beaucoup. Et il avait eu l'élégance de m'écrire une lettre manuscrite pour me remercier de mes gentils mots et en m'encourageant, en me donnant quelques conseils. Et j'ai encadré la lettre. Elle est chez moi, je vous jure. Ah, mais moi, j'assume, hein, quand je suis groupie du pianiste, je suis groupie. Et je suis groupie de Frédéric. Voilà.
Bah, c'est chouette.
Mais j'adore. Moi,
bah
j'aime
oui,
beaucoup.
C'est magnifique.
Et puis c'est quand même pas n'importe qui, c'est Nora Malagui.
Oh, bah non, t'es gentil.
Alors, Frédéric, vous avez une idée, vous, de sur
tout.
Cette réponse? Vous
j'ai
n'êtes pas.
Peur de décevoir Nora, mais.
Qu'est-ce que je viens de dire?
Romain,
alors.
Effectivement, nos voisins nord-américains, je les vois bien. Être mis à l'honneur.
Il me semble que c'est ça. J'en suis pas sûr à 100%, mais j'ai cette réminiscence.
Donc, on bloque cette réponse, le Québec?
On peut bloquer cette réponse.
Sachez que le Festival du Livre de Paris est le plus important événement du livre francophone à l'échelle mondiale. Ça fait 25 ans que le Québec n'avait pas été invité d'honneur. Donc, c'est une bonne réponse.
Oui, bravo.
Ce seront plus de 40 autrices et auteurs, illustratrices, illustrateurs québécois et plus de 60 maisons d'édition qui seront présents à Paris à la rencontre du public français, comme par exemple la poétesse Hélène Dorion, la toute première autrice québécoise à figurer au programme du baccalauréat en France depuis l'année dernière.
Oula.
Voilà.
On en apprend les choses.
Quatre bonnes réponses.
Voilà.
10 bonnes réponses en moins d'une minute. Ah. C'est l'heure du jackpot.
Allez, bon courage.
J'espère que vous m'envoyez toutes vos bonnes ondes.
Ah oui, 600 euros en jeu. Attention.
Allez, je suis prêt.
Top chrono. Qui avait pour surnom Clo-Clo?
Claude François.
Que signifie le F dans EDF?
France.
Quel est le prénom de l'actrice Mélanie Laurent?
Mélanie.
Le dessinateur de Lucky Luke, c'est Maurice ou Marcel?
Maurice.
Laurent Lafitte est de la Comédie Française ou de Courbevoie?
De la Comédie Française.
Le siège de l'ONU est à New York ou à La Haye?
New York.
Si j'applaudis les Los Angeles Lakers, je regarde quel sport?
Le basket.
Quelle ancienne Lolita a gagné un mari et la saison 4 de Danse avec les Stars?
Je passe.
La devise de la Belgique, c'est l'union fait la force ou Pierre qui roule?
C'est la force.
Lara Fabian est née au Canada ou en Belgique?
Belgique.
En 1998, c'était 1, 2 et 3 quoi?
0.
En 1980.
Ouais,
bravo,
Romain.
Merci à vous, j'espère que vous en ferez un bon usage.
Moi j'en ferai un bon usage.
Ben oui.
Je pense à ma femme et mes enfants, à mes super collègues, à mes patients.
Ouais.
Et puis à vous, hein. Merci les copains de m'avoir encouragé.
Ben on prend 10%, hein, c'est à vous voir.
Bravo à vous.
Quand vous êtes à Bordeaux, il n'y a pas de problème, on vous accueille. Il n'y a pas de souci.
Bonjour Sophie, bonjour les copains.
Salut Paul. Très jeune auditeur, il a l'âge de Mathilde, la jeune femme qui vous accueille au standard, c'est-à-dire 23 ans.
Oh là là, les bébés. C'est ça, absolument.
Vous travaillez déjà à 23 ans?
Oui, absolument, je suis chargé de recrutement.
Et vous nous écoutez déjà à 23 ans?
J'entends la voix sérieuse.
Il faut, mais je suis un passionné. C'est mon père qui vous écoutait beaucoup, puis du coup, j'ai pris. J'ai continué comme lui, puis voilà, du coup, je participe aujourd'hui.
Merci, donc, papa. J'étais un bébé européen, comme
c'est
on dit.
C'est bien, c'est bien.
C'est ça, absolument.
On va commencer, Paul, avec une première question, et là, on démarre très fort. Hein. C'est une question littérature.
Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre Albert Cohen ou Balzac, Machiavel ou Pierre Dac.
Alors, on vient de l'apprendre dans une étude publiée par le Centre national du livre. Les 16-19 ans consacrent en moyenne 1h25 à la lecture contre 5h10 à leurs écrans. On espère vous redonner le goût de la lecture avec cette question.
Par semaine
Par semaine. Par semaine. Stendhal, l'auteur du Rouge et Noir, est le quatrième auteur à entrer dans la Pléiade. Il est le premier à y faire figurer 3 volumes. André Gide sera le premier à y entrer de son vivant. Baudelaire est le premier à y entrer tout court en 1931. Mais au fait, d'où vient le nom de cette célèbre bibliothèque publiée par les éditions Gallimard, imprimée sur du papier très mince et résistant, relié en cuir pleine peau et doré à l'or dans les éditions de luxe. D'où vient le mot Pléiade? Bonne chance. Est-ce que ça vient d'un courant littéraire du XVIe siècle? Est-ce que ça vient d'un restaurant en face des éditions Gallimard? Ou est-ce que ça vient du latin plebe, car la collection a été créée à l'origine pour le peuple?
Alors...
Vous êtes plutôt littéraire, Paul, vous, ou plutôt matheux, ou ni l'un ni l'autre?
Aucun des deux. J'ai essayé de me mettre à la littérature, mais j'ai un peu de mal.
Ouais.
Mais non, malheureusement, aucun des deux.
Bon, bah, il faut que vous commenciez avec des livres qui vous attirent.
Voilà. Un petit club des cinq pour commencer.
Voilà, alors, les copains, qu'est-ce qu'ils jours. Disent moi, Caroline, grande lectrice.
Je suis pas très grande lectrice. Si, parce que j'ai plein de copines maintenant qui écrivent des livres, donc je les lis.
Oui, enfin, parler de littérature.
Voilà, on peut pas. Par contre, instinctivement, moi, j'aime bien la 3.
Ah oui, moi, j'aurais vraiment dit la première. La je crois première d'ailleurs aussi, que ouais. La première, c'est le courant,
littéraire du XVIe siècle.
Pléiade, on dit une pléiade d'artistes. Oui. Donc aucun rapport avec l'écriture forcément.
Non, pas forcément un rapport avec l'écriture, mais c'était un mouvement de, c'est comme, tu vois, comme les impressionnistes pour la peinture, vois. Et il me semble que.
Ce serait un courant.
Mais c'est pas une intuition que j'ai. Il me semble me souvenir de ça vraiment en cours de.
Ah oui, il y avait un courant littéraire qui s'appelait la Pléiade, sûr.
Et donc, du coup, ça me paraît très logique.
Ça me paraît assez logique aussi. Après, j'ai pas le lien direct entre les deux, mais.
Est-ce que vous suivez nos deux beaux gosses?
Ouais, moi je serais vous, je
le
suis.
Il y en a qui le suivent, mais on vous dit pas jusqu'où.
Une tête bien faite et bien pleine.
Eh ben, vous savez quoi, je vais prendre le risque et je vais suivre les deux beaux gosses.
Ah, quelle erreur.
Aïe. Donc je bloque cette réponse. Le mot Pléiade viendrait d'un groupe et d'un courant littéraire du XVIe siècle en quête d'une exigence de la langue française et dont faisait partie Joachim du Bellay et Ronsard. C'est le 500e anniversaire cette année.
Wow.
Et c'est une bonne réponse. Ronsard, du Bellay, des amis se font appeler la Brigade, puis la Pléiade, qui désigne le nom de 7 poètes qui ont vécu en 300 avant Jésus-Christ. Mais c'est également une constellation de 7 étoiles du nom des 7 filles d'Atlas et de Pléionée dans la mythologie grecque.
Bon, je ne me souvenais pas de tout ça.
On n'avait pas tous les détails.
Une première bonne réponse pour Paul.
1, 2, 3. Europe 1. Le qui ou quoi?
On va vous faire écouter des indices, à vous de deviner de qui ou de quoi on parle, en rapport avec la date d'aujourd'hui.
C'est vrai que quand on voit la première et quand on voit la deuxième, on peut avoir du mal à comprendre.
Mariage plus vieux, mariage heureux, ça dépend comment on écrit plus vieux.
Mr Bean et Phil Collins étaient là, la classe.
Quand ils avaient une liaison, leur conversation a été dévoilée, shocking.
Ça a failli se passer le même jour que les funérailles de Jean-Paul II, shocking.
De quoi parle-t-on, Paul? Est-ce que vous avez une idée?
C'est chaud.
Là, comme ça, il n'y a pas grand-chose qui me vient à l'esprit.
Moi, je pense juste Royaume-Uni, là, a priori. Je pense que les deux shocking et les personnalités qui ont été citées, je pense que c'est un truc qui se passe au Royaume-Uni.
Ils se seraient mariés le 9 avril.
Donc, on parle d'un mariage,
Probablement un mariage.
Est-ce que le prince Charles se serait marié avec Camilla? Elle se serait peut-être mariée le 9 avril.
Et c'était sous la flotte.
Ah bah ça, c'était en Angleterre, de toute façon.
Donc, non, mais c'était plus vieux dans le côté. Il est plus vieux.
Ah, plus vieux.
Non, mais quand on dit, tu sais que quand on dit,
ça dépend.
Plus vieux,
non, mais surtout,
c'est...
Je me souviens qu'ils ont dit, ça dépend comment t'écris plus vieux.
Oui, mais voilà. Et les deux, donc, ils étaient deux un peu vieux et il devait pleuvoir peu. Moi, je pense que c'est le mariage, Paul, ouais. le mariage de, bah, de Camilla et de son amoureux transi.
Cette association de trois intelligences au service.
C'est incroyable.
C'est incroyable.
Est-ce que vous bloquez la réponse, Paul?
Oui, on part sur le mariage, allez.
Vous vous rendez compte que ça fait déjà 19 ans qu'ils se sont mariés, Camilla et Charles. Ils se sont dit, oui, un 9 avril, il y a 19 ans.
C'est fou.
Charles avait 56 ans. On a l'impression que c'était hier,
c'est
non
vrai, ouais. C'est vrai.
Elle est morte quand, Lady Di?
98.
Camilla Parker Bowles avait 57 ans. Elle a un an de plus que lui.
Ah, bah, je pourrais me marier cette année.
Ils se sont rencontrés pour la première fois en 1972. Et c'est une belle et longue histoire.
C'est un mariage qui a été long à accepter par le peuple britannique.
Mais carrément.
L'histoire est belle quand même.
L'histoire de Camilla, c'est quand même incroyable.
Ils s'aimaient depuis leur tendre enfance. Hein, quand
elle
même.
A été la femme la plus détestée du Royaume-Uni avant d'être appréciée en tant que reine.
Est-ce qu'elle l'est vraiment encore? C'est même pas certain, la pauvre.
Apprécié.
Ouais, je sais pas.
Moi, c'est même pas sûr.
Si, parce que maintenant, c'est elle qui s'occupe de.
Ah, bah, maintenant, elle s'occupe de tout.
Bah, ouais, hein, donc, elle a la gérance, quoi.
Paul, ça fait deux bonnes réponses et voici une question musique.
Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts.
Et si tu as des problèmes, tu sais que tu t'aimes, ça t'aidera.
Vous êtes bien,
la chanson, où par définition, on déforme les paroles.
Bien sûr, on les a toujours pas retenues. Mais c'est vrai.
En même temps, il y a vraiment un flow, hein. Il y a un débit assez soutenu.
Nous sommes en 1974. Véronique Sanson est mariée au chanteur américain Stephen Stills et le couple a donné naissance à un petit garçon prénommé Christopher. Alors que Stephen Stills est en tournée, la famille loge dans la suite en duplex d'un hôtel Montcalm à Londres et il portait mal son nom, cet hôtel, puisque une nuit, Véronique Sanson tentait de dormir et elle est tirée du lit un petit peu trop tôt à son goût par un intrus qui fait du tapage. Mal lunée, elle se lève, elle descend au salon pour se plaindre du bruit. Sur qui va-t-elle tomber? Alors, Joe n'a pas le droit de répondre, parce qu'il va nous raconter cette anecdote en détail. Est-ce qu'elle est tombée sur Paul McCartney en train de jouer du piano? Est-ce qu'elle est tombée sur son fils en train de jouer de la batterie sur les casseroles de la cuisine? Ou est-ce qu'elle est tombée sur Thomas Hill en train de chanter du Claude François dans un mégaphone?
Ça arrive souvent, ça.
Du coup, je ne réponds pas, je dis.
Ah, tu ne peux pas parler non plus, mince. Non, il faut que tu m'aides. Alors, Paul, est-ce que vous avez une petite idée?
Alors, je vais suivre un instinct un peu particulier, mais que j'aime bien le prénom Paul, je vais peut-être m'orienter vers Paul McCartney. Ouais.
Paul McCartney, plutôt que son fils.
En même temps, c'est ce qu'il y a de plus logique, a priori.
Par rapport à Londres.
Oui. Ouais.
Donc, on bloque cette réponse?
Mais c'est fou qu'elle soit. Ce qui est fou, c'est qu'elle soit partie énervée. Parce que moi, si j'entends Paul McCartney.
Oui, mais elle
ne savait
pas que c'était lui. Donc,
oui, mais
elle
même
descend.
En train de chanter.
Mais elle savait
quand même
pas
un peu surprenant.
D'où venait ce bruit. Donc, elle descend pour râler. Et qu'est-ce qu'elle voit, Joe?
Eh bien, effectivement, c'est elle-même qui a raconté cette histoire. Elle avait très peu dormi parce que son petit garçon, Christopher, il ne faisait pas encore ses nuits. Et donc, à 9h du mat, quand il y avait du tapage dans le salon, elle descend, mais vraiment en pyjama, hirsute, pour dire: mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas bientôt fini. Et là, elle tombe sur Paul McCartney qui joue du piano. Paul McCartney, qui était donc en train de jouer ça.
Salut.
Dans le salon du duplex.
Incroyable.
Et pire.
On n'a pas tous la même vie.
Non, voilà, c'est ça. C'est pas pareil que d'aller gueuler sur le voisin le dimanche matin parce qu'il fait du bricolage. Quoi.
Ou la tronçonneuse.
Et l'ancien Beatles, en fait, il était là parce qu'il venait rendre visite à son copain Stephen Stills, qui jouait ce soir-là à Wembley à Londres, sachant qu'il était en ville et était venu le voir à son hôtel. Mais il ignorait complètement que Véronique et le petit Christopher dormaient à l'étage au-dessus. Quoi. Voilà.
Pas visiblement. Et si c'était
à Londres, sachant qu'il était en ville et était venu le voir à son hôtel. Mais il ignorait complètement que Véronique et le petit Christopher dormaient à l'étage au-dessus. Quoi. Voilà.
Pas visiblement. Et si c'était le matin, il ignorait que c'était un hôtel, surtout.
Oui, je pense. Je pense aussi.
Et alors, vous allez nous en dire plus sur ce couple, parce que ça n'a pas été de tout repos, leur histoire, là, entre Véronique
Stills
et Stephen Stills.
Bah, Véronique Sanson a quitté Michel Berger du jour au lendemain.
Elle est partie, elle a dit qu'elle allait acheter des clopes.
Exactement, elle a fait le coup du paquet de cigarettes, et en fait, elle est partie, elle a pris un aller-retour à New York.
C'est une femme qui le fait. Hein.
Bah, exactement. Et figurez-vous que cet aller-retour à New York a été rendu possible par une des très proches amies de Véronique Sanson, Nicoletta, qui lui a donné une liasse de billets en lui disant « Vas-y ma fille, fais-toi plaisir, pars à New York ». Et il y a carrément les services secrets qui ont été embauchés pour essayer de retrouver Véronique Sanson, dont on avait complètement perdu la trace. Et finalement,
et d'ailleurs, elle s'en est beaucoup voulu, je crois, d'avoir fait tant souffrir Michel Berger.
Mais d'ailleurs, elle a fait amende honorable des dizaines de fois par chanson. Elle a beaucoup parlé de ça. Et en même temps, moi, je trouve que c'est une période vraiment fascinante de la vie de Véronique Sanson, parce que toute cette fugue et les années qui vont suivre vont lui inspirer certaines de ses plus belles chansons, de ses plus beaux albums.
Ils sont redevenus amis après.
Ils sont redevenus amis, mais ils ne se sont pas revus avant 1990.
Donc ils se parlaient par chanson.
Ils se sont croisés sur un plateau télé et elle a interprété sur scène la chanson Le Maudit devant Michel Berger, qu'elle avait écrite pour lui. Et Michel Berger a dit, c'est tout simplement l'une des plus belles chansons françaises qui a jamais été écrite. C'est beau.
Hein. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est... Enfin, ça va, il n'a pas perdu aux chansons non plus.
Il lui a écrit quelques belles chansons aussi.
Il lui a écrit des belles chansons. En fait, ils ont conversé par chansons interposées.
Oui, c'est ça, il lui répondait, seras-tu là, je serai là. Et d'ailleurs, France Gall le vivait moyen.
Il y a France Gall aussi dans l'histoire.
Mais oui, imagine, il faisait des chansons incroyables sur l'amour. T'es sa femme, tu te dis, il s'adresse toujours avec Véronique Sanson, c'est l'enfer.
Et ça arrive parfois, ce genre de situation.
Vous voulez vous confier
Allez, Sophie, trois bonnes réponses pour Paul.
Bien entendu, sur Europe 1.
Combien ?
Oui. On joue avec les archives et on va jouer surtout avec Michel Drucker. De 2011 à 2013, il a présenté Faites entrer l'invité, une émission où il recevait des stars, mais aussi des chroniqueurs et des chroniqueuses. Parmi eux, Jarry, Camille Combal, Camille Chamou, ils ont fait un beau chemin depuis tous. Ouais. Ce jour-là, il recevait donc Serge Lama et à la fin de l'émission, il posait plein de questions. Ah. Le principe consistait à répondre très rapidement, un peu comme votre foire aux questions.
Ah oui, c'est ça. D'accord.
Écoutez.
Faites entrer l'invité sur Europe 1, présenté par Michel Drucker, 10h, 11h30.
Quelques minutes encore en compagnie de Serge Lama, Michel.
Alors maintenant, les questions à rafale, Serge, ça termine l'émission. Maximum de questions, maximum de réponses, minimum de temps. Top. Si tu étais un acteur américain.
Robert De Niro.
Pour quelle raison tu aimerais être une femme?
Pour me rencontrer. Oui.
La destination idéale pour un week-end en amoureux.
Une île.
Bien sûr.
Entre le ciel et l'eau.
Si tu deviens un jour un acteur X, tu prends quoi comme pseudo?
Il devait la préparer avant. On sent qu'il avait, il avait les questions
beaucoup,
avant.
Alors il est très fort.
Alors, quel pseudo aurait choisi Serge Lama s'il avait fait une carrière dans le X?
Mais comment on peut savoir ça?
C'était en quelle année?
Est-ce que là,
2011,
on était
entre 2011 et 2013.
Entre 2011 et 2013.
Ouais. Voilà.
En 2012.
Grosso modo.
Alors, est-ce qu'il aurait pris comme pseudo Serge Lamine, de Lama Fâché ou de Big Lama?
Ah, je m'attendais à Lama de Long.
Serge Lamine, c'est marrant.
Serge Lamine, c'est rigolo.
C'est vrai que Serge Lamine, c'est marrant. Big Lama aussi. J'hésite un peu entre les deux.
C'est quoi, celle du milieu déjà?
Lama Fâché.
Bon, non, pourquoi il serait fâché? Non, il serait pas fâché.
Non, puis c'est pas drôle. Lamine,
c'est rigolo. Ah bah oui.
Et le dernier, vous avez dit
Big Lama.
Big Lama, ouais.
Oh, je le vois pas employer des mots anglais, moi. C'est pas son genre. Donc,
Serge Lamine.
Lamine, c'est l'amour.
Serge Lamine.
Qu'est-ce qu'on fait, Paul?
Qu'est-ce qu'ils en pensent, les copains, Eric?
Moi, je partais sur Lamine.
C'est difficile parce qu'on ne peut pas savoir. Ça, c'est impossible de se souvenir d'un truc comme ça. C'est juste là, on se dit que le plus drôle des trois, c'est Serge Lamine.
Alors
ouais, bah, soyons fous, allez. On prend Serge Lamine.
D'accord, donc je bloque votre réponse.
Au pire, c'est 500 balles.
Et on va écouter la réponse.
Si tu deviens un jour un acteur X, tu prends quoi comme pseudo?
Serge Lamine.
Ouais. Et on entend le rire de Julie qu'on embrasse si elle nous écoute. On était en 2012 et le 11 février 2024, Serge Lama a officiellement annoncé sa retraite et ses adieux à son public à Vivant Dimanche sur le canapé rouge de Michel Drucker.
Bravo Paul.
Bien joué Paul.
Ah bah ça y est.
Bravo à vous.
Et voilà, maintenant, Sophie, vous allez faire comme Michel Drucker, 10 questions à fond.
En rafale.
Alors oui, allez. Là, j'en fais appel à ses cultures générales, mais par exemple, la réponse sur qu'est-ce que ça vous ferait de vous rencontrer en tant que femme.
Ouais, c'est pas évident.
Est-ce que c'était drôle.
Si je vous demande, Caroline, votre nom d'actrice porno, ce serait quoi? Hop, comme ça, c'est difficile.
Attends, je vais réfléchir.
Alors là, c'est 10 bonnes réponses en moins d'une minute qu'il faut me donner, Paul, pour empocher les 500 euros qui sont dans le jackpot. Vous êtes prêts?
D'accord.
Je suis prêt.
Bonne chance à vous.
Allez.
Attention, top chrono. Qui partage l'affiche avec Danny Glover dans L'Arme Fatale?
Pass.
Gustav Klimt était un peintre hollandais ou autrichien?
Hollandais.
Avec quelle actrice Vincent Lindon a eu Suzanne Lindon?
Pass.
Vrai ou faux, Christophe de Chavannes a présenté La Roue de la Fortune?
Vrai.
Bernard Montiel a présenté Vidéo Gag ou Vidéo Blague?
Vidéo Gag.
Cette année, la fin du printemps, c'est en juin ou en juillet?
En juin.
Le sketch de l'eau ferrugineuse, c'est Bourvil ou Fernand Reynaud?
Bourvil.
Vrai ou faux, Prisca Thévenot est ministre chargée du renouveau démocratique?
Faux.
Frédéric Mitterrand avait 3 fils ou 3 filles?
3 fils.
Quel était le prénom de l'acteur Mariel?
Passe.
Combien il y a de baies à Zimbabwe?
3.
Le Zimbabwe, c'est au sud ou au nord de l'Afrique?
Au nord.
Martine de Martine à la ferme a 70 ans ou 50 ans?
C'était dur. Non, mais c'était super dur.
Alors, est-ce que vous avez un petit quart d'heure devant vous pour qu'on fasse toutes les réponses?
Corriger.
5 bonnes réponses. Ah,
c'est pas mal, quand
Paul.
Même. Parce qu'elle était dure, Sophie. Hein.
Alors, qui partage l'affiche avec Danny Glover dans L'Arme Fatale?
C'est Mel Gibson.
Bien. Avec quelle actrice Vincent Lindon a eu Suzanne Lindon?
Avec Sandrine Kiberlin.
Wow, vrai. Ça, moi, je savais pas.
Quel était le prénom de l'acteur Mariel?
Jean-Pierre.
Combien y a de B à Zimbabwe?
Bah deux.
Deux.
Mmh. Voilà. Et c'est au sud.
Non mais Paul, franchement, c'était super dur.
Bien joué.
Bravo quand
dommage,
même.
C'est dommage.
Bon, on vous embrasse, Paul. Embrassez toute votre famille.
Bravo
vos
quand
parents.
Même.
Est-ce que je peux en profiter rapidement pour faire un bisou à toute ma famille, mon père, ma mère, mes soeurs, etc. Mais ouais, surtout dire à ma petite amie, oui. Ma future femme, j'espère que dans 3 jours, c'est son anniversaire. Donc je lui souhaite un très bon anniversaire d'avance. Non. Et puis je lui prépare une très belle surprise. Et que merci pour tout ce qu'elle m'a apporté.
Oh là là,
elle ne voulait pas la demander en mariage aussi. Elle l'attend que vous y êtes.
Exactement, alors
ce qui est cool, c'est que vous aurez un appareil photo pour immortaliser l'événement.
Et c'est vrai. Et c'est quoi le prénom de votre petite amie?
Paul,
elle s'appelle comment votre petite amie?
Elle s'appelle Sarah.
Eh ben Sarah, tiens, très beau joli prénom, on l'embrasse très 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 fort.
Elle s'appelle Sarah, c'est le nom d'un joli livre de Tatiana Doronet d'ailleurs.
Absolument, très très beau livre.
Eh ben beau mariage.
Eh ben merci beaucoup.
Sophie et les copains.
Sophie Davant sur Europe 1.
Bonjour Erwan.
Bonjour Sophie, bonjour les copains.
Bonjour Erwan. Qui appelle de quelle région?
De l'Eure.
De l'Eure.
Village qui s'appelle Rouge-Perrier.
Mais voilà. Vous n'êtes pas
breton? Je suis breton d'origine.
Ah,
oui, je suis breton d'origine pour faire plaisir.
Ça me fait plaisir. Quand vous savez qu'il est breton d'origine.
Erwan,
c'est pas que ça, ma petite Sophie.
Moi, j'aime pas les bretons. J'ai de la famille à Saint-Malo, Cancale, voilà.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Erwan?
Je suis employé de banque.
Oui. Voilà. Et vous aimez bien faire les brocantes, je vois.
Oh, oui, j'aime beaucoup faire les brocantes et notamment j'ai un petit peu, ouais, un péché mignon. Dès que je vois des jeux de société, je peux pas m'en passer. Je trouve collection de jeux de société. J'ai une pièce dédiée avec plus d'une centaine de jeux.
Ah ouais? Est-ce que vous avez le jeu de mon enfance qui s'appelle Hôtel? Vous l'avez?
Oui, je l'ai. Oh, oui.
J'arrive,
vous voir. Entre Bretons, c'est Monopoly version Hôtel.
Exactement. D'accord. Oh, j'adorais.
Ah, je crois que je revois.
Alors, vous savez, Erwan, qui est un comédien qui est comme vous, qui est Vincent Dedienne, qui adore les jeux de société. Il collectionne les jeux de société. Il est passionné de jeux de société.
Et pour tout vous dire, mon compagnon est passionné. Alors, lui, c'est une autre chose, mais c'est pareil. Alors, lui, c'est les assiettes, les faïences de Quimper.
Ah, bon,
voilà.
Il faut faire venir. L'équipe d'affaires conclue là, Erwan.
Oui, j'y ai pensé plusieurs fois.
Avec Harold, on allait voir des collectionneurs ça.
Bah, il doit y avoir des petits trésors chez vous, Erwan.
Oui, il y en a, oui, je pense.
Allez, on va jouer, Erwan, avec les archives d'Europe 1.
Bien entendu, sur Europe 1.
On va évoquer la mode et la haute couture.
Oh là,
mais en 1983, la tendance est un retour à la féminité avec une carrure pour la femme élargie et une taille fine, des tailleurs galbés, des robes drapées et des jupes moulées.
Ça vous parle ça, Sophie?
Ouais, écoutez, Jean-Pierre Elkabbach qui reçoit Karl Lagerfeld qui vient d'être nommé directeur artistique de la maison Chanel. Ah.
On parle de féminité, car je crois qu'il n'y a plus de pantalons, par exemple, pour Printemps-Été 83. Pas oui, de pantalons, des robes.
Il y en a toujours quelques-uns, mais vous avez les pantalons aussi, ça a souvent plus de chic dans les prêt-à-porter, parce que je ne pense pas qu'il faut aller en haute couture pour commander un pantalon. Parce que les pantalons...
Et surtout pas chez Chanel.
Non, mais c'est elle qui les a inventés quand même. C'est, en tout cas,
elle les portait, mais apparemment elle ne les conseillait pas. Pas
oui,
trop.
Enfin, parce qu'elle avait un côté un peu méchant avec les autres femmes, elle trouvait que les autres femmes n'étaient pas assez bien pour le porter.
Il a toujours les répliques terribles. Alors Chanel va opter en 1983 pour un petit tailleur bleu, blanc, rouge. El Kabash va demander à Lagerfeld, un peu ironique, si ce choix de bleu, blanc, rouge, c'était pour faire oublier que Karl est allemand. Que va répondre, à votre avis, le grand couturier ? Est-ce qu'il va répondre que de toute façon Coco Chanel a toujours aimé les Allemands, qu'il a toujours été un révolutionnaire de la mode et que le bleu, blanc, rouge, c'est les couleurs de la Révolution, ou que Jean-Pierre n'était pas très bien habillé, alors il ne se justifiait jamais envers qui que ce soit.
Alors, à
qu'est-ce
votre avis,
d'abord,
Erwan,
oui, Erwan.
Ouais, à votre avis.
Alors, j'enlèverais, je ne sais pas, Jean-Pierre, la dernière.
Ouais, je suis d'accord.
La une, elle a deux. Ouais, la une, elle a deux. Oh, je dirais peut-être la 2.
Vous n'avez pas vu les séries là, qu'on peut voir en ce moment sur les plateformes.
New Look.
Il y a une série sur Christian Dior où on voit bien le passé de Coco Chanel. Qui était
oui, il fait famille. Référence à. Ah, fait oui, qu'elle soit un peu collabo, la dame
alors,
Chanel.
C'est peut-être la première, alors, du coup.
Ouais, c'est vrai qu'elle avait. Il avait quand même un humour.
Comme il allemand, oui.
Sur les
moi, je le vois bien sortir la première, Erwan.
Allez, la première,
Donc, je bloque la première et on va écouter la réponse.
Chanel, qu'est-ce que c'est en 83, Alexandre ?
Eh bien, c'est petit tailleur bleu, blanc ou rouge, blouse ras-de-cou, robe du soir avec manche-boule.
J'espère que ça ne fait pas 50s. Ça, c'est tout ce que je souhaite, parce que le 50s a déjà été beaucoup exploité dans le prêt-à-porter.
Mais pour quelle raison ces couleurs bleu, blanc, rouge ? Est-ce que c'est parce qu'on dit que vous êtes d'origine allemande ?
Non, mais nous savons, de toute façon, par les livres d'Edmond Charleroux, que Mademoiselle Chanel aimait beaucoup les Allemands, c'est pas ça. Non, parce qu'après tout, ça se passe en France, et quand je travaille dans le monde entier, comme ça, je me suis marqué les coups à moi tout seul.
Mais la façon dont il le dit, c'est gonflé. Effectivement, on a appris que Chanel avait eu un passé un peu collaborationniste. On l'a appris 3 ans après sa mort par un livre d'Edmond de Charleroux.
Bah dis donc, bravo Erwan, du coup.
Ouais, bah merci.
Donc c'est une première bonne réponse. On va vous poser une question actu. Le roi se meurt, Rhinocéros, la cantatrice chauve. À qui doit-on ?
Ionesco.
Ça fait 30 ans, jour pour jour, que l'écrivain franco-roumain Eugène Ionesco est décédé. Qu'est-ce qui a été décidé pour lui rendre hommage ? Un timbre à son effigie ? Un bébé rhinocéros au zoo de Thoiry qui va être prénommé Eugène, ou le théâtre de la Huchette à Paris qui sera baptisé Ionesco en 2025.
Alors,
est-ce que vous en avez entendu parler ?
Pas du tout.
Les copains non plus, manifestement.
La première, rappelez-moi, c'était Sophie, c'est quoi ?
Un timbre à son effigie.
Oui, à mon avis, c'est ça.
C'est
non, si, c'est ça. C'est ça.
Oui, puis les grandes figures de ce monde sont quand même généralement concernées.
Parce que le rhinocéros perdu là-bas, je pense pas que Eugène...
Donc, qu'est-ce que vous décidez ?
Allez, on va sur le timbre.
Un timbre à son effigie va être proposé. Et c'est vrai, à l'unité.
Ah.
Il est vendu 1,29 €. Il sera tiré à 600 000 exemplaires. Il est disponible normalement à compter d'aujourd'hui. Est-ce que vous voulez une petite citation de Jeanne Ionesco ?
Oui. Prenez votre voix qu'on aime.
Prenez un cerf. Caressez-le. Il deviendra vicieux.
Vous avez bien choisi.
Oh,
il faut que vous regardiez. La tête qu'elle
une autre.
Fait.
Non, ça sera tout. On s'arrête.
Pas plus.
Et on continue de jouer avec Erwan et une question histoire. Thème musical de
Johnny Williams.
Oui, Jurassic Park.
Et c'est bien Johnny Williams ou pas du tout ?
Je ne sais pas.
John Williams.
C'est le cousin de John. La débile.
Alors, la préhistoire, c'est passionnant, surtout quand ça se passe au cinéma avec le talent de Steven Spielberg. Dans la réalité, ça peut être une discipline assez austère, voire assez ingrate. Beaucoup d'études pour parfois peu de reconnaissance. Et puis, on n'étudie pas tous les jours le T-Rex. Parfois, on étudie même de longues longue période où il ne se passe pas grand-chose. La preuve, le nom de ces périodes. Par exemple, comment on appelle la longue période entre il y a 1,8 milliard d'années et 0,8 milliard d'années?
Attendez, Sophie, vous êtes sérieux? C'est quoi cette question?
C'est folle! Je vous donne trois propositions. Est-ce qu'on l'a appelé la période pas grand-chose?
Non.
Le milliard ennuyeux ou l'air rien à signaler?
Franchement, par élimination, Erwan...
La 2.
La 2, ça fait très scientifique, non?
Ouais, c'est ce qui fait le plus, c'est le plus crédible.
C'est quoi? C'est ennuyeux, non?
L'air rien à signaler.
Non, non, c'est pas possible, ça.
Non, non.
Ça,
non, la 2, la 2.
Bah ouais, la 2.
Sérieux.
Je bloque cette réponse.
Ouais, ouais.
Bon, donc je la bloque. Et c'est une époque où il y a une grande stabilité tectonique, une stabilité climatique, une évolution biologique très lente. Bref, il ne s'est pas passé grand-chose. Et c'est la bonne appellation.
Bravo.
C'est le paléontologue Martin Brasier qui va appeler cette période le « boring billion », en français le « milliard ennuyeux ». Et aujourd'hui, on explique le pourquoi du comment. Pourquoi cette période a été très ennuyeuse? Eh bien, parce qu'à l'époque, le taux d'oxygène était très faible. Donc, il ne se passait pas grand-chose.
Il ne se passait rien. Vous imaginez, voilà. Vous faites une thèse là-dessus?
Ouais, ah, mais moi, j'aimerais bien connaître le nom scientifique de cette
Le « boring billion ». Le « milliard ennuyeux ».
D'accord, et dites-moi, Erwan, vous jouez tout seul ou il y a François avec vous, votre compagnon?
Ah non, je suis tout seul, non, parce qu'il est sur un chantier encore.
Vous avez vous-même un jardin?
Oui, oui. Ah ouais. J'ai de la chance, comme il est paysagiste.
Ah oui, voilà. Ça doit être magnifique.
Bon, voilà. Il doit être canon.
On a vraiment envie de venir chez vous.
Ouais, moi, le petit jardin,
depuis tout à l'heure, on est en train de s'inviter chez eux.
Exactement. C'est pas très loin, en plus. Vous faites maison d'hôte, Erwan, ou pas du tout?
J'y ai pensé, mais peut-être qu'un jour, oui.
C'est assez grand pour faire une maison d'hôte.
Oui, il y a quatre chambres.
Et on est combien, les gars? On est quatre.
C'est une chaumière maison normande.
Voilà. Non, parce que voilà, il y a la congé de fin de semaine qui se présente.
On doit vous dire qu'avec Sophie, on fait la tournée des maisons le week-end. On adore visiter les maisons. On s'imagine dans toutes les maisons dans lesquelles on est invité à dîner.
Ils seront là vers 20h, vraiment, pour le dîner. Sortez la faïence, Erwan.
Et le jeu de société.
Ah, et voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Alors voilà, c'est l'argument qui est allé. Vous êtes définitivement convaincu, il adore cuisiner. Donc
vous êtes parfait.
Je pense que vous n'aurez pas le choix. Préparez-vous.
On arrive.
Europe 1.
1 180 000 centimes.
Non.
J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois.
Le chiffre du jour. Alors Erwan, on va jouer bien sûr dans l'univers d'Isabelle. Et là, le chiffre du jour, c'est 1999. À quoi correspond-il ce chiffre? Est-ce le nombre de disques d'or remportés par Isabelle Morizet? Est-ce que c'est l'année où Isabelle Morizet est arrivée sur Europe 1? Ou est-ce que c'est l'année du dernier concert d'Isabelle Morizet? 1999.
Alors, Erwan.
Moi, je crois savoir, mais vous, Erwan?
Mais peut-on l'aider, Erwan? Bonjour, Erwan.
Alors, oui, aidez-moi, Isabelle. Alors, 99, j'irai la radio, demande aux copains.
Vous avez parfaitement raison, c'est exactement cela. Moi, je connais parfaitement bien la carrière d'Isabelle que je suis depuis qu'elle a fait les premiers pas dans cette radio.
Voilà, Roland Pérez est le gardien de ma mémoire.
Donc, alors, vous pouvez.
C'est l'année où elle est arrivée sur Europe 1, c'est une bonne réponse. On va écouter l'émission qu'elle animait. Elle animait Salut les copains, et on est content de saluer cette émission parce que nous, on
vous
a fait
retrouvé
un petit clin d'œil. Écoutez.
Des enregistrements. Et c'est le C, Salut les copains, 15h30, 18h, Karen Chéri. Aujourd'hui est la journée de tous les bonheurs. Pensez donc, nous sommes des miraculés. Nous avons échappé aux prédictions funestes de Paco. Et le thé est là, l'été qui ne demande qu'à se laisser savourer en musique. 2h30 de jubilation musicale sont au programme. Vous vous rendez compte? Allez, on perd pas une seconde.
Yeah, le ton est déjà là.
L'a
un petit peu changé, non?
Pas tellement le grain de voix.
Vous avez une voix plus suave encore.
C'était en août 99 et votre nom de naissance, vous l'avez repris 2 ans plus tard.
Oui, alors ça c'était étonnant, j'avais la possibilité de recevoir Georges Charpak, prix Nobel donc de physique. Franchement, croyez-vous que on puisse obtenir une réponse positive de la secrétaire du prix Nobel de physique si on se présente en disant « Bonjour, je suis Karen Cheryl, j'adorerais vous interviewer ». Donc je suis allée voir celui qui plus tard est devenu
mon mari, et qui dirigeait Europe 1, Jérôme Bellet, et je lui ai soumis cette demande. Il a froncé le sourcil, et il me dit « Mais alors, ça sera définitif, c'est pas juste ponctuel. » Pas de problème, je tiens à retrouver cette virginité médiatique parce que je trouve que c'est finalement plus confortable pour interviewer les autres, se retirer totalement de la douche de lumière. Voilà, ça a commencé ainsi, et quand on a dit « Isabelle Morizet souhaiterait recevoir », eh bien la secrétaire de Georges Harpac a dit oui. Pas de problème.
Sophie Davant va nous dévoiler son vrai nom ce soir.
Germain.
Bon, on va jouer avec Erwan qui a quand même un grand moment avant que nous débarquions chez vous en week-end dans votre...
On sera cinq finalement.
Dans
on
votre
sera cinq.
Maison d'hôte, cher Erwan, vous allez tenter un jackpot à 600 euros. Il faut me donner 10 bonnes réponses en moins d'une minute. Ok Erwan ?
Eh bien on est prêt, allez.
Il est rentré, François, ou pas ?
Pas encore.
Vous aurez tout le mérite d'avoir gagné seul.
Mais peut-être, peut-être qu'il est en train de vous écouter à la radio, tout simplement, sur la route, en rentrant.
Ouais, j'espère aussi.
Allez, on y va. Attention, bonne chance à vous, Erwan.
Merci.
Top chrono. Bonnie and Clyde étaient des chanteurs ou des gangsters ?
Chanteurs.
Le Rhin prend sa source en Allemagne ou en Suisse ?
Ensuite.
Au tennis, on tape la balle avec une
balle.
Au tennis, comment on appelle le terrain de tennis?
Le terrain de tennis.
Comment ça s'appelle un terrain de tennis?
Allez, il est pas long.
Le premier métro a été parisien ou londonien?
Le parisien.
Aux USA, Houston est au sud ou au nord?
Au sud.
Le vrai prénom de Tino Rossi, c'était Antoine ou Constantin ?
Constantin.
Vrai ou faux, Tino Rossi a connu les années 80 ?
Vrai.
De quel sport on parle quand on dit l'Ovalie ?
Le rugby.
Quelle ville est le plus au sud, Venise ou Montpellier ?
Montpellier.
Quel Herbert n'a qu'un pays, celui de ton corps, et n'a qu'un péché, ton triangle d'or ? Bon, c'est dommage, vous avez enclenché la quatrième là au bout de deux, trois questions.
C'est ça.
Le début a été un peu plus difficile, mais parce que mais c'est normal, c'est impressionnant, c'est normal.
Oui, parce que quand même au tennis, on tape la balle avec quoi, Erwan?
Ah, la raquette.
Et vous avez une balle
avec une poêle.
Ah oui, j'étais
Et alors au tennis, comment on appelle le terrain de tennis?
Ah, le court.
Mais oui, tout simplement.
Ah oui.
Et Bonnie and Clyde n'étaient pas des chanteurs. Peut-être qu'ils faisaient des braquages en chantant, on ne sait pas.
Gainsbourg et Brigitte Bardot, oui. Le premier métro était...
Il avait bien répondu,
je crois, non ?
C'est parisien, mais...
Pas du tout. Le premier métro, il était londonien.
On n'a pas de regret.
En tout cas, ça fait que 6 bonnes réponses, Erwan.
C'est dommage.
C'est déjà bien.
Mais oui, c'est bien.
En tout cas, on vous embrasse tous les deux.
Merci, je vous embrasse. Au revoir.
Pour jouer sur Europe 1, inscrivez-vous maintenant en envoyant Sophie par SMS au 739-21. 3 fois 75 centimes, plus coût du SMS.
Vous retrouverez Sophie et les copains en direct dès lundi prochain pour une émission spéciale musique. Vous pourrez donc à nouveau jouer et chanter avec Sophie Davant et sa bande. Et leur invité, ce sera Nicoletta. Et voilà, une nuit qui s'achève et une nouvelle journée qui commence. Soyez les bienvenus si vous nous retrouvez à l'instant sur Europe 1. Alexandre Lemaire et Ambline Roche s'apprêtent à entrer dans le studio d'Europe 1. Bonjour, pour faire un premier tour complet de l'actualité. On les accueille sur un titre de Bob Dylan. Voici Man Gave Names to All the Animals. Je vous souhaite un excellent réveil et un bon début de journée avec Europe 1.
Long time ago, he saw an animal that liked to growl. Big furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hat. I think I'll call it a bear.
7h.
Europe 1, bonjour.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Bonjour à tous et bon réveil. Vous êtes sur Europe 1. Europe 1, bonjour. 5h, 7h à l'approche de week-end, de votre week-end et peut-être aussi de vos vacances, puisque les vacances scolaires commencent pour Marseille ou pour Lille, pour Strasbourg ou pour Nantes. Europe 1, bonjour avec Omblin Roche. Bonjour Omblin.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Dans l'actualité de ce vendredi, 100 jours à Matignon, on va revenir sur les annonces de Gabriel Attal. Le Premier ministre s'est prêté hier soir à la télé à son premier exercice bilan et perspective. L'enquête en Alsace après l'attaque au couteau de deux petites filles près de leur école, l'agresseur a séjourné à l'hôpital psychiatrique. Enquête européen sur l'état de nos routes, aïe aïe aïe, leur état est parfois déplorable. Alors qui est responsable? Qui paie la facture ou pas? On ira voir dans le sud-ouest. L'usine à gaz MaPrimeRénov', pas évident de bénéficier de cette aide à la rénovation énergétique. Les travaux à la maison sont souvent chers et compliqués. Le service public France Rénov' part en tournée à votre rencontre dans toute la France pour vous donner les bons conseils et on espère vous simplifier la tâche. On en parle avec Martin Lagan, porte-parole de l'Agence Nationale de l'Habitat à 7h20 sur Europe 1. Avez-vous déjà entendu parler du sepsis? Le sepsis est une infection particulièrement dangereuse, 80 000 morts par an en France, et pourtant elle est parfaitement évitable. Il faut informer les Français, en tout cas il faut les informer davantage. C'est le cri du professeur Djilali Annan, c'est un grand spécialiste de cette maladie du sepsis. On va lui donner la parole ce matin sur Europe 1, il vient vous en parler à 6h20. Après le journal, Omblin, les initiatives en France à 5h20.
Oui, l'hebdomadaire Un jour une actu explique l'actualité, qui explique l'actualité aux 8-12 ans, a lancé l'application Mon permis smartphone destiné aux enfants. Pour conduire, il faut un permis, pour un smartphone aussi, voilà ce qu'ils disent. L'idée est de faire passer aux enfants un examen à la fois ludique et pédagogique pour leur apprendre à bien se servir d'un smartphone. Les explications dans 20 minutes.
Anissa Adadi est avec nous pour bien finir la semaine. Bonjour Anissa.
Bonjour Alexandre, bonjour Omblin, bonjour à tous.
À 5h15, votre histoire dingue. Alors on est tellement accro à notre smartphone, on peut tellement plus s'en passer. Même au resto.
Même au resto.
Et du coup, vous allez nous raconter l'idée qu'a eu un restaurateur italien pour dissuader ses clients de passer tout leur repas sur leur téléphone.
C'est simple, en fait il imagine que les adultes sont des enfants, donc pour se passer de leur téléphone, il faut un cadeau au bout. Mais quel est ce cadeau?
cadeau qu'offre l'Italien, le restaurateur italien. Pour que vous puissiez poser votre téléphone, vous allez voir qu'il est original et qu'il plaît aux clients, ce
la
cadeau.
La carotte plutôt que le bâton, vous nous racontez ça à 5h15. Côté ciel, Anissa Dadi, ça s'annonce comment ce vendredi?
Pas terrible du tout. Le temps change exactement. Et on va avoir une différence par rapport à hier. Parce qu'hier, c'était sur la moitié nord qu'il faisait beau et c'était agité sur la moitié sud. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est sur la moitié nord que le temps est agité. Après une journée agréable mais froide hier, aujourd'hui, on a une nouvelle perturbation qui va arroser les Hauts-de-France déjà actuellement. Hein, on a des averses sur les Hauts-de-France, sur les heures.